Alors, frères et sœurs, nous sommes au premier des cinq dimanches qui déboucheront sur la Semaine Sainte et la fête centrale de la foi chrétienne, Pâques. Je vous fais remarquer que le thème du carême cette année, il est affiché sous une majestueuse croix, « Grandir dans la foi ». Peut-être vous souvenez-vous, à l'avant, c'était « Grandir dans l'espérance ». Alors, vie liturgique a maintenu son grandir. Il change simplement en quoi nous devons grandir. Alors, nous avons devant nous 40 jours. 40 jours pour nous mettre au diapason de la parole de Dieu, telle que nous l'a transmise Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Les textes de la parole de Dieu en ce dimanche nous rappellent le récit de la tentation de Jésus au désert. Il est historiquement certain, absolument certain, que Jésus a voulu faire une sorte de retraite avant de commencer son ministère. Ça, c'est sûr. Le désert, c'est le lieu par excellence, un lieu excellent pour faire une retraite, parce qu'il est un lieu de solitude, un lieu de silence, où l'homme se trouve face à lui-même. Si Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, j'insiste, pour y être tenté, c'est que la tentation, donc, fait partie du projet de Dieu sur son Fils, pour son Fils. Nous voilà donc avertis, nous. Nous sommes avertis que nous aussi, notre baptême ne nous dispensera pas d'être soumis aux épreuves. À côté du sens un peu enfantin du mot « tentation », la Bible utilise l'expression « mettre à l'épreuve ». Et c'est le même sens. Est-ce qu'il ne faut pas, ou est-ce que nous ne devons pas, ou ne faut-il pas qu'on éprouve un amour? L'éprouver, est-ce que c'est vrai qu'elle m'aime? Est-ce que c'est vrai qu'il m'aime? Je vais voir s'il m'aime, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors, examinons maintenant si les trois épreuves que Jésus a subies. La première tentation, elle est représentée par la faim. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bon, vous avez peut-être remarqué, frères et sœurs, que nous avons déposé au pied de l'autel des pierres. Non, ce n'est pas des patates qui viennent du champ de patates de Rigaud. Ce sont des pierres pour nous rappeler la tentation de la faim. Mais se nourrir est essentiel. Sans nourriture, pas de vie. Il n'y a aucune raison de penser que cette première tentation fut purement spirituelle. Je ne crois pas. Si Jésus n'a vraiment pas mangé pendant 40 jours, il a dû avoir la ceinture serrée. Il a dû avoir le visage émacié. Bon, mais tout ça pour nous dire qu'il a eu faim. La faim du corps, la faim de l'estomac, la faim de l'estomac. Puis avoir faim, c'est souffrant. Je sais pas, avez-vous déjà eu faim, là? Moi, il m'est arrivé, en tout cas, d'avoir eu faim après une maladie. Je n'avais pas mangé beaucoup, des miettes. Quand est arrivé quelque chose que j'aimais, une senteur, un aromate qui est parvenu à mon nez, la faim m'a poigné, comme on dirait. Et là, mon estomac me fait mal. Alors, frères et sœurs, avoir faim, c'est souffrant. C'est pour ça que cette tentation, c'est une tentation contre l'espérance. On se révolte devant la souffrance et on demande à Dieu de supprimer tout ce qui nous fait souffrir. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, change ça. Seigneur, fais que. On espère que Dieu va exaucer notre prière. La faim est un mal qui nous atteint et qui atteint aussi des peuples entiers. Des peuples entiers, des parties de l'humanité souffrent de la faim. Puis nous autres, on en a, on la jette, la nourriture, pour apaiser notre faim. Et souvent, on est amené à être tenté d'accuser Dieu ou bien de lui demander de résoudre ce problème, ce mal. On peut aussi interpréter la première tentation à travers l'éternel conflit entre la chair et l'esprit, le corps et l'esprit. Nos sens ont faim et nous cherchons à les assouvir avec les nourritures terrestres, les plaisirs faciles. Mais les plaisirs faciles ne construisent pas forcément les hommes et les femmes de valeur. Les sociétés de consommation, avec la société de consommation, avec son matérialisme, ça risque de rabaisser l'être humain à son niveau le plus élémentaire. On pourrait dire, comme on dit d'habitude, à son niveau le plus bas. Et la réponse de Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain. Elle est toujours d'actualité, cette parole, cette réponse, de ses satisfactions terrestres elle pourrait nous perdre, ces satisfactions. Alors, de ses satisfactions, ou bien de la parole de Dieu qui peut nous sauver, qui peut nous sauver de toutes les épreuves. La deuxième tentation, c'est celle qui fait appel à un orgueil démesuré, à la vaine gloire. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et encore cette fois-ci, Jésus répond au tentateur en lui opposant la parole de Dieu. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. La deuxième épreuve, elle est celle de la foi. Jésus a été tenté toute sa vie de réussir avec succès sa mission en utilisant les moyens faciles. Il aurait pu le faire. Vous savez quoi? C'est quoi les moyens faciles qu'il aurait pu utiliser? C'est les miracles à profusion. Faire des miracles sensationnels. Il serait devenu la vedette du pays. On aurait couru après lui. On l'aurait vraiment fait roi. Mais non. Il savait que l'opinion publique de son temps, à part ça, attendait un Messie qui montrerait clairement la puissance de Dieu par des signes éclatants. Alors Jésus, frères et sœurs, croyez-le ou non, il a été tenté de jouer au Dieu Tout-Puissant. Mais il a choisi d'être le Messie pauvre, le Messie humilié, le Messie écrasé par les foules et les autorités de son temps. Tout chrétien doit s'attendre à cette tentation, frères et sœurs, cette tentation contre la foi. C'est la tentation du vide. On voudrait que Dieu soit plus évident. Et il est Dieu caché. On aimerait sentir, éprouver sa présence quand on prie et dans nos liturgies. Mais Dieu se tait. On voudrait pouvoir mettre la main sur lui pour en faire un Dieu à notre service. On voudrait un Dieu qui nous éviterait de heurter nos pieds aux pierres du chemin. Et Dieu nous laisse notre autonomie et nos responsabilités. C'est comme s'il nous disait, « Évite toi-même les pierres, et si tu les heurtes, ne t'attends pas à un miracle. » Ce n'est pas pour cela que j'existe, car moi, le Très-Haut, je suis tout autre. La troisième tentation, c'est celle du pouvoir, le pouvoir sous toutes ses formes. Elle est représentée par les rois de la terre. Et pour la troisième fois, j'insiste, Jésus se réclame de la parole de Dieu pour repousser cette tentation. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Si Matthieu écrit que le démon emmène Jésus sur une haute montagne et lui fait voir tous les royaumes de la terre, on sait très bien que c'est une manière de parler. Hein? n'allons pas croire que ça, c'est vrai, parce qu'il s'agit d'une vision intérieure et surtout pas un phénomène physique. Il n'existe aucune montagne, frères et sœurs, aucune montagne au monde d'où on peut voir tous les royaumes de la terre. Ça n'existe pas. Avec cette tentation, nous avons l'épreuve de l'amour. Celui qui prétend recevoir l'adoration des hommes, c'est Satan. Satan, c'est l'anti-Dieu. Et là, ici, Jésus le désigne par son nom. Pour la première fois depuis le début du texte, il l'appelle Satan, son nom. Quant à nous, nous sommes tentés de diviniser toutes sortes de choses. Qu'elles sont nombreuses, nos idoles, c'est-à-dire tout ce qui tente de prendre la place de Dieu. L'argent, le confort, le prestige, la domination, le pouvoir, le plaisir, les idéologies, ou bien telle ou telle bagatelle à laquelle nous attachons tant d'importance. Dieu seul est Dieu. Ce carême nous est donné, frères et sœurs, pour nous libérer des faux dieux et de demander au vrai Dieu, le Dieu vivant, de faire grandir notre foi en lui. Pour conclure, reconnaissons que, comme Jésus, notre espérance, notre foi et notre amour de Dieu sont mis à l'épreuve. Saurons-nous faire confiance à la parole de Dieu pour sortir vainqueurs de ces épreuves? Amen.